Moi, je m'appelle Alain, je suis un malade alcoolique. Je suis abstinent de toute consommation de produits depuis plus de 42 ans maintenant. Et là, ce que je vais vous témoigner, ça n'engage que moi, ça ne peut pas en aucun cas engager le mouvement, puisque j'ai vu que sur le programme, il était indiqué que j'avais été président du mouvement des alcooliques anonymes. Donc, c'est avant tout mon expérience que j'engage. Voilà, pas de handicap particulier, si ce n'est les marquages psychiatriques avec lesquels on m'a épinglé lorsque j'étais alcoolique pratiquant, alcoolique et polytoxicomane. Voilà, je tenais à le préciser. Puis autrement, bah, j'ai été infirmier en psychiatrie et puis ensuite éducateur spécialisé. Je me disais que ça valait le coup de le dire puisque j'ai entendu quelqu'un qui s'est présenté à ce titre et qui actuellement s'occupe du XAPA. Voilà. Laisse tout le monde s'asseoir. Alors, pour démarrer, je voulais dire à Emmanuel que, comme d'habitude, il m'avait piqué mon témoignage. Il lui manquait qu'une chose, il est alcoolologue, il lui manque d'avoir été alcoolique. Mais bon, ce qu'il peut dire, en tous les cas, j'abonde complètement, quand je regarde mon propre parcours. Je vais vous présenter ça en trois parties, en espérant pas dépasser le temps qui m'est donné. Tout d'abord, bon, l'entrée dans le produit, c'est à l'adolescence. Et les termes qui ont été utilisés tout à l'heure par Emmanuel, je peux les reprendre. Très, très vite, ça a été plus fort que moi. Très, très vite, je n'ai pas pu me passer des produits. Très très vite, je veux dire, j'ai été dans un environnement qui était propice à ce que je sois. Il n'y avait pas de règles ou de lois qui pouvaient s'opposer à ma consommation. Et très très vite, le produit m'a apporté, dans les débuts, ce que j'en attendais, c'est-à-dire une sorte de détente, un mieux-être, l'abstraction ou la mise de côté des problèmes que je pouvais rencontrer. D'une certaine manière, l'espèce de joie qui était artificielle, bien sûr, je ne savais pas encore, et puis me donner un sentiment de puissance. Voilà, c'était un peu le contexte, et ça a duré très peu de temps, puisque très très vite, j'ai été emprisonné dans les produits. Produits opiacés, produits alcooliques, lorsque je diminuais l'un, j'augmentais l'autre, etc. À 20 ans à peu près, l'affaire était pliée. J'étais entièrement dépendant de l'ensemble de ces produits. J'ai touché le fond. Je le précise parce que c'est un point qui me paraît important pour parler avant de parler du rétablissement. J'ai touché mon fond, mais vraiment d'une manière catastrophique. Moi, il m'a fallu tout perdre. C'est pas uniquement le permis de conduire. Il n'y avait plus de permis de conduire. Il n'y avait plus de voiture. Il n'y avait plus rien. J'ai été placé sous contrainte. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Moi, c'était le placement d'office. À plusieurs reprises, avec levée du placement d'office, j'étais quelqu'un qui était violent et donc j'ai eu un suivi médico-judiciaire qui a été appliqué à ma situation. Pendant tout le temps de ma consommation, lorsque je faisais des allers-retours en hôpitaux psychiatriques, j'étais essentiellement épinglé du côté de la nosographie. Je voulais préciser ce point-là parce que d'une certaine manière, c'est quelque chose qui me fascinait. J'étais pas alcoolique, j'étais pas toxicomane, j'étais tantôt dépressif, tantôt tendance à ceci, tendance à cela. Et je me pliais, je me mettais là, dans cette nosographie avec une certaine délectation. Je me disais, mais pendant ce qu'on me dit tout ça, eh bien dans le fond, il y a un traitement qui m'est donné et on me fout la paix pour le reste. Mais au fond de moi-même, je savais très bien ce qu'il en était. Il est possible que j'étais anxieux, dépressif, etc. Ben, oui, mais en même temps, je savais très bien aussi que ce qui était majeur dans ma vie, c'est que je me faisais toujours la promesse d'arrêter, de changer de produit, de diminuer ma consommation, et je ne pouvais pas y arriver. Et c'est là que le problème de la volonté dont vous avez parlé ce matin se pose. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a de la volonté déchaînée pour boire, pour consommer des tas de produits à l'excès comme j'ai pu le faire, mais il y a une difficulté à inverser en quelque sorte et à mettre cette volonté au profit du rétablissement. Il a fallu qu'il y ait une rupture. Ça, la transition, elle est là. Ce qui a fait rupture, c'est que j'ai touché un fond particulièrement douloureux. C'est quand la souffrance est devenue largement supérieure au gain de joie, si on peut dire la joie, ou de plaisir, plus exactement. Et puis, c'est aussi des rencontres de personnes qui n'étaient pas forcément du médical, qui n'étaient pas nécessairement du médico-social, loin de là, mais qui étaient simplement des gens qui m'ont accueilli sans me juger, qui m'ont accueilli en se disant que pour eux, il y avait quelque chose qui était comme un défi qui leur était adressé. Et qui ne m'imposait rien de particulier, qui était y compris prêt à ce que je meure. Ce qui est terrible, parce qu'on peut se dire, d'une certaine manière, qu'il y avait là peut-être non assistance à personne en danger, mais en même temps, je pense qu'elles avaient compris l'essentiel, qu'il fallait que j'aille à mon bout d'expérience, et que peut-être au passage, j'aurais la mort. Voilà, donc bah, j'ai terminé ma carrière d'alcoolique en 1980, en décembre 80, par une hospitalisation et en ayant pris connaissance de deux bouquins qui ont été fondateurs pour moi. C'est le livre de Kessel avec les alcooliques anonymes et l'expérience du docteur Haas à l'hôpital de Saint-Cloud. Alors là, je vous parle de temps que les moins de 20 ans dans la salle ne connaissent peut-être pas. Et ça m'a touché au cœur. C'est-à-dire que toutes les témoignages qu'il y avait dans ces deux bouquins, je me suis identifié. Et je me suis identifié en me disant, bah, si pour eux ça a été possible, pour moi ça devrait être possible. Et puis la chance avec ces livres, c'est qu'il y avait, à la fin de ces bouquins, il y avait des adresses et des numéros de téléphone. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans mes premières réunions. Donc là, en l'occurrence, réunion des alcooliques anonymes, et où j'ai posé mon corps souffrant, mon cœur souffrant, mon âme souffrante. J'ai posé tout mon être. En me disant de toute façon, qu'est-ce qui pourra m'arriver de pire que d'aller de réanimation en réanimation, d'enfermement en psychiatrie, de traitement à ceci, à cela, etc., etc. Et puis, bah, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que eh ben, ceux qui étaient autour de la table, c'était mes frères, c'était les mêmes que moi. Et je pense que là, ce jour-là, bah, j'ai compris quelque chose d'essentiel, c'est que d'abord, bah, l'expérience partagée de la même souffrance et d'un rétablissement possible, eh bien, c'était fondateur. Ça a été essentiel pour moi. Et autour de la table, je voyais des gens qui parlaient au passé de ce que je vivais encore au présent. Et ça m'a donné un espoir extraordinaire. Voilà. Donc, bah, depuis, ça s'est construit progressivement, en tous les cas pour moi. Et je pense que, et je voulais insister là-dessus, puisque ce matin, ça n'a pas été évoqué, mais sans doute parce qu'il y avait d'autres choses à développer dans vos présentations, l'importance des mouvements d'entraide, l'importance tout à fait extraordinaire de rencontrer ses semblables, hein, de ceux qui ont vécu la même chose que soi et qui, peu importe après les parcours, parce qu'il y a autour d'une table de 15 ou 20 membres, à un moment donné, il peut y avoir 15 ou 20 façons d'avoir bu, de s'être foutu en l'air, de ceci ou de cela, mais ce qui va être important, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler comme une fraternité qui se fait, peut-être une dépendance aussi, mais ce qui a été essentiel pour moi dans le mouvement que j'ai rencontré, c'est qu'on m'a proposé un programme de rétablissement. Et que ce programme de rétablissement, eh bien, me permettait enfin, un, de regarder en vérité qui j'étais, d'aller à la rencontre de moi-même, sans le produit, sans les produits, et d'imaginer, d'envisager un parcours de reconstruction et quelque chose qui enfin allait donner quelque chose que je cherchais depuis l'enfance presque, un sens à ma vie, une orientation nouvelle à mon existence. Et je dois dire que c'est quelque chose bon, qui marche, en tous les cas, je voulais surtout témoigner de ça, et qui marche, je pense, y compris pour des personnes qui sont en situation de handicap, puisque bon, dans les réunions, j'ai pu fréquenter et être aux côtés de personnes qui étaient en situation de handicap, qui avaient consommé dans la situation de handicap et qui avaient posé le verre également. Grâce à la rencontre avec le mouvement, et puis le développement des réunions en visio, ces dernières années, à la suite de la pandémie, permettent à beaucoup de personnes qui sont touchées par des maladies complexes de venir nous rejoindre, y compris des personnes hospitalisées sur des hospitalisations de longue durée qu'on peut voir en visio allongées sur leur lit d'hôpital. Donc voilà, il y a une grande espérance. Je voudrais pour conclure, parce que je pense que j'arrive à peu près au bout, mais en tous les cas, dire que oui, c'est une maladie complexe. La preuve, c'est que moi, j'en ai vraiment pas fait le tour. Et ça fait très longtemps que j'ai lâché l'affaire. Parce que je pense que les pourquoi, je me les suis tellement posés, on me les a tellement posés. On m'a tellement dit, mais t'as pas de volonté. Pourquoi t'arrêtes pas de boire? Tu détruis ta vie. En réanimation, quand je ressortais du coma, on me disait, monsieur, votre cœur, ça marche plus très bien. Vos reins, ils commencent à fatiguer, etc. Pourquoi vous arrêtez pas? Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a eu qu'un endroit, en quelque sorte, où on a osé plutôt me dire, bah, comment on va pouvoir faire? Voilà comment nous, on a fait. Et voilà comment, pour aujourd'hui, on y est arrivé. Et pour aujourd'hui, eh bien, ça a marché encore pour moi. Je suis devant vous, alors debout, enfin assis quand même, mais bon, debout, et très heureux de vous donner ce témoignage. Je voudrais rajouter que moi, j'étais très, très pénétré de tout ce qui concernait la psychiatrie, la psychanalyse, etc. Et en même temps, je veux dire que c'est un médecin psychiatre qui m'a sauvé la mise. C'était un ami, et quand je me suis retrouvé dans. J'habitais une grande ville du Sud, quand j'étais au fond du trou, je l'ai appelé pour qu'il me voie, pour qu'il me reçoive. Et il a osé une parole tout à fait déterminante pour moi qui m'a mis en mouvement. Il m'a dit, je ne peux pas te recevoir tout de suite. Et moi, c'était toujours tout, tout de suite. L'alcool, c'était toujours tout, tout de suite. Les opiacés, tout de suite. Me voir tout de suite. Être à côté de moi tout de suite. Il y avait de la prise d'otage en permanence dans mes comportements. C'était compulsif. Et il a osé dire, mais je peux te recevoir que dans quelques jours. Et je lui ai dit, bah, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? J'ai plus rien. Ma femme est partie. Elle revient pas. Etc. Je vais pleurer. Il m'a dit, mais pleure si tu peux et si tu veux. Peut-être que ça va te faire du bien, mais moi, je ne pourrai te recevoir que dans quelques jours. Cette fermeté, elle a été salvatrice. Je témoigne de ça pour dire que des fois, il y a des paroles qui viennent poser un cadre, s'opposer à la prise d'otage en quelque sorte, et qui, pour un malade dépendant, peuvent être tout à fait déterminantes et le sauver quelque part. J'aurais pu sombrer, c'est possible, mais de toutes les manières, ce n'était pas pour le coup à cause de lui. Mais à cause et grâce à la parole qu'il a donnée ce jour-là, eh bien, ça m'a mis en route. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.